Bonsoir à tous. Nous vous invitons aujourd'hui à écouter la dernière des conférences enregistrée début juillet à Castanet-Tolosan dans le cadre de l'Université chrétienne de la ville. En lien avec le thème traité cette année, la vérité vous rendra libre, Marie Monnet, dominicaine, juriste, théologienne et rectrice de Domini Universitas, abordait la question de la justice restaurative.
Voilà, alors j'espère que je ne vais pas vous achever, mais plutôt ouvrir cette session d'été de Castanet, à laquelle je suis associée régulièrement depuis pratiquement la fondation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en ces temps caniculaires. Je crois que je ne suis jamais venue à Castanet, sinon par des températures extrêmes. Alors, ce soir, on va donc parler ensemble de justice restaurative. Le fil rouge de la session d'été, c'était « C'est la vérité nous rendra libres ». On est dans un futur, c'est un projet qui est au cœur de l'Évangile. C'est une des phrases, à mon sens, les plus puissantes de l'Évangile. La vérité vous libérera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce chemin qui s'ouvre à nous de libération? Ça veut dire d'abord que ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qu'il va falloir méditer, un chemin dans lequel il va falloir entrer progressivement, individuellement et collectivement. Et c'est une vérité qui libère, c'est-à-dire on va vers une situation plus favorable qu'elle ne l'est. Cette année, le pape François, avant sa mort, avait décrété que c'était l'année de l'espérance. Voilà une belle espérance de se dire nous allons vers une situation plus favorable. Et c'est peut-être cette touche d'optimisme qui doit nous guider quand on aborde, comme on va le faire ce soir, des situations extrêmement douloureuses et aiguës. Parce que vous le savez bien, autant que moi, quand la justice passe, quand des procès se tiennent, quand la justice est rendue, c'est qu'il y a eu une déchirure profonde d'une relation, d'un contrat, d'une communion, ou encore une déchirure sociale. Ça veut dire que la justice ne s'attache qu'à des situations extrêmement compliquées, et on le sait tellement bien que généralement on se dit « un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès ». Alors quand on parle de justice restaurative, on va entrer dans cette dynamique-là, optimiste, d'essayer de penser ensemble une issue favorable à un procès, qui ne soit pas seulement de rendre justice, c'est-à-dire de sanctionner quelqu'un qui aurait commis une faute, un délit, un crime, mais aussi restaurer le tissu social et les personnes qui ont subi la faute. Alors, on va y aller en trois temps, hein, parce que peut-être certains d'entre vous sont juristes, et donc vous savez peut-être ça déjà, mais ceux qui ne le sont pas, on va essayer de faire en trois temps. Premièrement, on va regarder ensemble les apports et les limites de la justice classique, puisqu'on a la chance d'être dans un état de droit et d'avoir un système judiciaire qui fonctionne à peu près. Avec toutes ces limites, on connaît les moyens limités de la justice. On sait très bien que pour les justiciables, le temps est très long, que les délais s'allongent de plus en plus d'ailleurs, que les rendus ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Mais quand même, en France, on est dans un état de droit, la justice existe. Alors c'est quoi son apport et les limites? Le deuxième temps, ça sera de regarder ensemble justement ce qu'apporte la voie restaurative. Qu'est-ce qu'elle est, cette justice restaurative, en complément, en aboutissement, en accomplissement de la justice classique? Comprendre que c'est un changement de regard. Et puis, le troisième moment, c'est essayer de comprendre que cette justice restaurative, elle s'ancre dans une profondeur biblique et théologique. Le premier à formaliser la justice restaurative un peu comme théorie de la justice, c'est un chrétien, et c'est pas pour rien. Et moi, je voudrais qu'on plonge un peu dans nos racines bibliques et théologiques, puisque comme nous sommes dans une université chrétienne, on peut se permettre d'aller aux sources du droit et peut-être là de puiser, non pas la source unique de la justice restaurative, mais au moins peut-être une source d'inspiration profonde qui peut nous habiter quand nous-mêmes nous serons confrontés à des problèmes de justice ou d'injustice plutôt. Alors si je suis là ce soir pour vous parler de ça, c'est parce que j'exerce deux fonctions. J'ai des fonctions universitaires. Je dirige l'université en ligne des Dominicains qui s'appelle Domini Universitas, qui a été fondée ici à Rangueil il y a maintenant 27 ans. Le siège de Domini, c'est ici, au couvent des Dominicains. Donc je suis heureuse de ce retour estival aux sources. Et puis j'exerce aussi la profession d'avocate au barreau de Paris. J'accompagne plus particulièrement des victimes, mais pas que. Il m'arrive d'accompagner aussi, de défendre des agresseurs, disons le mot. Et donc, dans ce cadre-là, confronté au quotidien, aux limites du système judiciaire, j'essaye, comme d'autres avec moi, d'imaginer d'autres voies possibles, non pas seulement de sanctions, on va approfondir tout ça, mais aussi de restauration. Et si nous sommes les disciples de celui qui nous dit que la vérité nous libérera, c'est qu'il s'agit d'aller au-delà de la vérité des faits pour essayer de toucher une vérité plus profonde, plus relationnelle, qui restaure la confiance. Et s'il y a quelque chose qui est blessé dans l'injustice, c'est la confiance. La victime, elle ne peut plus faire confiance. Et nous le savons, quand nous-mêmes nous sommes blessés, même à des niveaux qui ne nécessitent pas des procès, on ne fait plus confiance. C'est terminé. Ça veut dire que, quelque part, la seule possibilité de s'en sortir et de poursuivre, de survivre, de vivre, c'est de se couper des relations qui ont fait mal. Alors, y a-t-il quelque chose à imaginer? Et encore une fois, si j'emploie le mot imaginer, c'est à dessein. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à créer. Et peut-être aussi que, j'espère que ça va nourrir votre été, mais peut-être même au-delà de l'été, comme chrétiens, nous sommes peut-être responsables dans nos lieux de vie, dans nos familles, dans nos communautés, dans les lieux de travail, d'être les acteurs de cette justice qui restaure. Voilà. Le fondateur du concept de la justice restaurative, il s'appelle Howard Zerr. Alors, comme chaque année, j'ai donné ma trame à Agnès, mais comme chaque année, je ne vais pas la suivre. Donc, j'admire beaucoup Agnès. Voilà, là, on arrive. Je voulais vous présenter Howard Zerr, qui est un Américain né en 1944, c'est donc tout à fait contemporain, et qui est un criminologue qui est le premier à avoir théorisé le concept de justice restaurative. Alors, bien sûr, il y a d'autres penseurs, d'autres acteurs du monde judiciaire qui avaient des intuitions un peu analogues, mais déjà faisons le focus sur lui. Son livre majeur est en anglais, si on traduit le titre, c'est « Changeons de lunettes ». Ça vous donne déjà l'éclairage de sa recherche. Et il a une deuxième fonction que j'aime beaucoup, une mission que j'aime bien, il est photographe. Et il a énormément photographié des victimes pour leur rendre une visibilité, on va en reparler, les faire exister ou revivre dans la communauté sociale et politique, leur donner un visage, restaurer leur dignité. Et finalement, ces deux activités, penser la justice restaurative au niveau des processus, des fondements, on va faire tout ça ensemble, les piliers de la justice restaurative, mais tout simplement photographier pour redonner un visage humain à ces victimes, c'est le même travail. Et donc, quand on vous interrogera sur la justice restaurative, vous pouvez penser à Howard Zerr et vous dire, oui, il s'agit en fait de photographier le visage d'une victime et de le rendre à nouveau digne et reçu dans la communauté humaine. Pourquoi ? Parce que le principe de base de la justice restaurative, c'est que les victimes sont invisibilisées. Donc, premièrement, on va revenir là-dessus très, très en détail, les apports et les limites de la justice classique. La justice telle que nous la connaissons, c'est déjà un immense progrès sur le monde médiéval, où c'était le règne de la vengeance privée. Bon, vous avez un problème avec votre voisin, vous allez lui mettre un coup sur la tête, ça règle le problème. Hein, c'est la loi du plus fort. Et dans les pays où il n'y a pas de système judiciaire qui fonctionne ou qui existe, c'est toujours cette loi du plus fort, cette loi de la jungle. Donc les plus vulnérables, les plus faibles, ça peut être les faibles physiques. Quand on est une femme, on sait très bien qu'on a un problème physique, on ne pourra pas faire face à quelqu'un de plus fort. Les enfants, les personnes âgées, les malades, enfin toute personne en situation plus vulnérable est exclue, ne peut pas se faire justice. Et qui gagne dans la vengeance privée ? Ben, celui qui domine, qui a les armes, le pouvoir, l'argent, les relations. Et tous les systèmes de corruption, encore aujourd'hui, fonctionnent sur ce modèle-là. Je rentre de Madagascar, où j'étais il y a quelques mois, trois mois, pour parler de la corruption aux étudiants en droit de l'Université catholique de Tananarive. La corruption à Madagascar est endémique, c'est de pire en pire. En 25 ans, le pays s'est encore dégradé, alors qu'il a un énorme potentiel. Et c'est justement parce qu'il y a un système judiciaire qui ne fonctionne pas. Et quand on visite ces pays-là, on rentre en France, on entend les plaintes. Bien sûr qu'en France, ça ne fonctionne pas très bien, les délais. Bon, mais d'empêche que ça fonctionne quand même un peu. Voilà. Alors dites-vous que au Moyen-Âge, c'est la loi de la jungle, et à l'époque moderne, il y a un système judiciaire qui se met en place, un système pénal, et c'est le système dont on vit encore aujourd'hui, qui est fondé sur des règles claires. On ne se fait pas justice soi-même, on délègue la justice à l'État, qui est garant de faire passer la loi quand il y a un problème, et il y a un triptyque qui fonde le système judiciaire encore de nos jours, c'est qu'il y a une faute, il y a un jugement et il y a une sanction. Faute, jugement, sanction. Alors ceux qui seraient intéressés par ça peuvent se référer à la pensée de Cesare Beccaria, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un Italien du XVIIIe siècle, il est mort au moment de la Révolution française, hein, donc il a couvert le XVIIIe siècle. Il a écrit « Des délits et des peines », c'est un ouvrage paru à Milan en 1764 et dont on s'inspire encore. L'intérêt de ce système judiciaire dont on vit encore, c'est qu'il permet l'égalité devant la loi. Parce que la loi du plus fort, c'est aussi que si vous êtes puissant, le jugement est plus favorable. Si vous avez de l'argent, le juge est plus sensible à votre cause. Avec le système mis en place avec les Lumières, et notamment ce penseur du droit, Beccaria, c'est que chacun est égal devant la loi. On sort donc de l'arbitraire des juges. Hein, et ça, c'est extrêmement important. Ce système judiciaire, il permet aussi de protéger la société par la sanction. Le coupable est désigné et il va être sanctionné. Mais selon un principe qui est très important, qui est celui de la proportion des peines. On ne va pas couper la tête du voleur de poules. On serait peut-être tenté des fois, hein, parce que chacun voit le mal qui lui est fait comme un absolu. Voilà. Donc là, l'État est garanti, ce système judiciaire garantit une régulation et une proportion des peines. Donc au fond, depuis le 18e, nous sommes dans un cadre rationnel et mesuré, qui est la justice classique qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce cadre, ce système, il montre des limites. La première grande limite, c'est que la victime est souvent périphérique. Dans un procès, c'est une sorte quand même de vis-à-vis entre l'auteur des faits et un tribunal. Certes, la victime va être entendue, il y aura des témoins, mais d'empêche que le système actuel, c'est un vis-à-vis qui met le focus plus sur l'agresseur que sur la victime. L'auteur n'a pas toujours conscience de ce qu'il a fait. Il peut être sanctionné sans prise de conscience. Et ce qui, malheureusement, en témoigne, c'est le taux de récidive. Alors là, j'appuie sur des faits, des chiffres. C'est les chiffres de 2023 de la chancellerie, du ministère de la Justice. Aujourd'hui, 59% des personnes condamnées à une peine de prison ferme récidivent dans les 5 ans. Donc 60%, quoi, on va dire. C'est énorme. Celles qui ont bénéficié d'une mesure alternative, dont justice restaurative, ce n'est que 34%. Ça veut donc dire que dans la justice classique, il manque quelque chose pour aller au bout du processus, qui serait pas seulement la réintégration de l'auteur, mais aussi sa non-récidive. Ça serait ça le succès du système judiciaire. Et donc la justice restaurative, elle vient s'insérer dans ce petit maillon manquant, là, au bout de la chaîne, comme pour dire, voilà, on va essayer de penser, de créer les conditions pour que justement on réduise ce taux de récidive. Donc premier élément qui signe un peu la limite, sinon l'échec du système judiciaire actuel, le taux de récidive, la récidive. Et puis il y a un deuxième élément qui est important à prendre en compte, c'est celui de la prescription. On sait bien que dans certains cas, les faits sont prescrits. Donc si on s'en tient à la vérité des faits, eh bien, qu'en est-il de la justice pour la victime? Il n'y en a pas, c'est plus possible. C'est procédural, c'est comme ça. Et moi, je suis confrontée très souvent à des gens qui sont des victimes qui n'ont pas accès, finalement, au système judiciaire qui est censé rétablir la justice. Et donc la justice restaurative peut apparaître comme un des moyens de répondre à ce besoin de justice quand les faits sont prescrits. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais faire avec vous pour avoir un panorama un peu général qui s'inscrit dans le temps long, qui est à la fois quand même montre un acquis de notre société et d'un état de droit qui fonctionne à peu près, mais aussi d'une limite, et dans cette limite, en creux, vient s'insérer la justice restaurative. Et donc, vous voyez, quand nous, chrétiens, on entend la phrase de Jésus-Christ, « La vérité vous rendra libre », on se dit qu'il y a quelque chose qui va plus loin que la vérité des faits, il y a quelque chose qui, en fait, va plus loin qu'un système de justice classique, mais qui est fait un chemin qui est fait pour libérer non seulement la société d'un certain mal, parce que c'est ça le but de la justice aussi, non seulement libérer l'auteur du crime, parce qu'une fois qu'il a payé, il est libre, hein, c'est justement le but, il a payé sa dette à la société et il peut être réintégré, mais quid des victimes, un chemin qui libère aussi la victime du mal qu'elle a subi, qui l'enferme, parfois à tout jamais, et qui lui interdit de vivre. Et il n'est pas anodin que cette phrase soit au cœur de l'évangile de vie proclamé par Jésus-Christ, qui s'inscrit quand même dans une dynamique de libération, de résurrection. Donc je pense que c'est avec tout cet arrière-fond qu'on a le droit de penser, y compris la justice restaurative au niveau civil. Parce qu'on a aussi quelque chose à apporter à la société en tant que chrétien, quand on l'a bien assumé, quand on essaye de le comprendre, pour insuffler un petit quelque chose de plus qui va plus loin. Quelle est cette vérité qui nous libérera? Alors, deuxième temps. Mais ça, on va. Voilà, ça, c'est un petit tableau récapitulatif. OK. Qui vous met en vis-à-vis. Alors, il y aura un écrit, donc vous pourrez. Le micro. Voilà. Qui vous permettra quand même de revoir. Dans la justice classique, le crime est une violation de la loi. Dans la justice restaurative, le crime est d'abord perçu comme une atteinte à une personne ou à un lien. Lien social dans la corruption, par exemple. Dans la justice classique, les acteurs du procès, c'est l'État, le ministère public, comme on dit, et l'auteur du crime ou du délit. Dans la justice restaurative, c'est l'auteur, bien évidemment, la victime et la communauté. Alors on y reviendra. Mais vous voyez, ce n'est pas l'État seul, mais c'est toute la communauté humaine que nous formons. On va voir ensemble après des mesures de justice restaurative pour comprendre comment la communauté est actrice. La communauté, c'est-à-dire la communauté sociale. Hein, la... Dans la justice classique, l'objectif, c'est de punir. Dans la justice restaurative, l'objectif, c'est de réparer, de reconnaître, de restaurer. Dans la justice classique, c'est une décision descendante, hein, le juge y tranche. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, vous faites appel et c'est terminé. Enfin bon, il y a encore quelques moyens de recours, mais il y a un moment, ça s'arrête. C'est descendant. La justice restaurative, c'est une forme de dialogue circulaire. Et là, c'est qu'un avant-goût. On va essayer de creuser pour comprendre ce que ça veut dire. Alors, il y a un magistrat qui vient de sortir un ouvrage extrêmement intéressant, en 2025, c'est tout récent, qui s'intitule « Une autre justice, la voie restaurative ». Antoine Garapon, c'est un magistrat qui est très engagé, qui n'exerce plus comme magistrat, mais qui a énormément d'expérience, notamment dans des lieux très blessés, comme l'ex-Yougoslavie, le Rwanda. Enfin, vous voyez, on va revenir sur ces notions-là de justice restaurative au niveau global, au niveau des États. Et là, il a écrit un livre aussi parce qu'il était membre de la CIAZ, la commission qui a travaillé sur la question des abus sexuels dans l'Église, des abus dans l'Église. Et il préside une des deux commissions de réparation qui a été mise en place à la suite de la CIAZ pour accueillir les victimes, dont la plupart, les faits étaient prescrits, et justement leur proposer un accompagnement de mesures alternatives, de justice réparatrice, pour qu'elles puissent émerger, si possible, et retrouver un chemin de vie. Donc, Antoine Garapon, si vous vous intéressez à la justice restaurative et que vous n'avez qu'un livre à lire, je pense que c'est celui-là. Et vous voyez, le titre est très clair, « Une autre justice ». Alors la citation que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. « Une justice de la relation, dit-il, redonne voix à ceux qui l'avaient perdue et ouvre un espace d'écoute mutuelle. » Or, cette phrase, sous son apparente simplicité, elle est très dense, parce que quand vous avez une justice de la relation, bah déjà on comprend que ce n'est pas le point de départ de l'idée de justice ordinaire. Une justice de la relation. Elle redonne voix à ceux qui l'avaient perdue. Qu'est-ce qu'être humain, être un citoyen, être majeur, être une personne responsable, c'est quelqu'un capable de parole. Être responsable, un être responsable, c'est être capable de répondre, un être de parole. Quand vous allez voter, chaque fois qu'il y a des élections, vous donnez votre voix. Vous participez à l'élaboration des politiques par ce biais-là, plus ou moins selon les circonstances, mais n'empêche qu'on donne sa voix. Donc ça veut dire que perdre sa voix, c'est être exclu de la communauté humaine. Les victimes, c'est ça qu'elles ressentent. Elles n'ont plus voix au chapitre, elles ne peuvent plus parler de ce qui s'est passé. Le délit ou le crime, plus encore, les rendent sans voix. Elles n'osent plus parler, elles ont honte. Elles ne sont pas comprises, donc elles se taisent parce que par avance, elles savent qu'elles ne sont pas comprises. Elles ont peur qu'on leur dise, mais en fait, au fond, alors on le dit plus ou moins habilement, mais c'est un peu de ta faute, quoi. Si tu avais fait ci ou si tu avais fait ça, ça ne se serait pas passé. Hein, on sait bien, il y a toujours des... Donc, en général, quand il arrive quelque chose de grave, et même parfois de pas grave, on préfère se taire plutôt que d'en parler, de peur qu'on nous en rajoute une couche, hein, pour parler très simplement. Ben là, c'est ça. Et donc, cette justice réparatrice, restaurative, c'est une justice de la relation qui redonne voix à ceux qui l'avaient perdue. Et ouvre, dernière partie de la phrase très dense, ouvre un espace d'écoute mutuelle. Donc ouvrir un espace, ça veut dire que ça ne va pas de soi. Simone Veil, la ministre, quand elle est rentrée des camps de concentration, elle a été déportée à l'âge de 15 ans, elle n'a jamais voulu parler de son expérience de déportation. Et elle disait, de toute façon, on ne nous écoutait pas. Personne n'avait envie de savoir. Et donc le silence était encore plus dur à vivre que elle se taire la première. Et ça, c'est des témoignages extrêmement forts. Donc ouvrir un espace, ça doit être de la part de la communauté humaine que nous sommes. Ça peut être dans les familles, ça peut être dans les paroisses, ça peut être dans les communautés religieuses, ça peut être dans les lieux de travail. C'est un acte volontaire. Il faut ouvrir un espace. Il n'est pas ouvert, quoi. D'écoute mutuelle. On sait tous que l'écoute mutuelle, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Moi, je ne suis pas mariée puisque je suis religieuse dominicaine. Mais dans les communautés, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Dans les couples aussi, partout en fait. Voilà. Donc là, on comprend que quand il nous dit une autre justice, c'est une justice de la relation, qui redonne voix à ceux qui l'avaient perdue et ouvre un espace d'écoute mutuelle. Eh bien, un gros programme de travail, quoi. Hein, sous l'apparente banalité des mots. Antoine Garapon, comme je vous le disais, il a travaillé sur d'autres sujets en amont. Et je vous signale quand même qu'en 2002, il a fait un ouvrage où il parle de justice transitionnelle pour parler des crimes de masse, comme ce qui s'était passé au Rwanda, aussi l'apartheid en Afrique du Sud ou dans l'ex-Yougoslavie à l'époque. 2002, c'est encore des choses très récentes. Quand ces crimes sont trop extrêmes pour les cadres classiques, du droit, il faut inventer autre chose. Alors, sans caricaturer, quand vous êtes dans un génocide, c'est vos voisins de palier qui vous décapitent et qui décapitent vos enfants, vos parents. C'est pas des soldats qui viennent d'ailleurs. Voyez, dans les phénomènes génocidaires comme ce qui s'est passé dans au Rwanda, c'est vos voisins. Et qu'est-ce qu'on fait après quand il y a un semblant de paix civile qui est revenu? Comment on fait pour vivre ensemble avec les mêmes voisins de palier? Quand vous avez dans le jardin de l'église les trois quarts de votre famille enterrés. Donc c'est ça la justice transitionnelle, c'est les juristes et les praticiens du droit qui essayent de penser les situations post-conflit très aiguës, très extrêmes, et comment mettre en place un système de droit qui tient compte du fait que votre meilleur ennemi est sur votre palier, hein, si je caricature. Justice de transition, transitionnelle après. Vers quoi? Vers quand même une restauration du lien social. Donc, quand vous entendez justice restaurative, ça s'attache plutôt à des personnes, à des communautés plus petites, hein, mais bon. Et puis justice transitionnelle, c'est à l'échelon des États. Comment on fait pour vivre après un génocide, revivre ensemble? Là, aujourd'hui, le Moyen-Orient est en feu à nouveau. En Israël, Palestine, les communautés plus que s'entre-déchirent. Il y a du extrême malheur des deux côtés. Viendra quand même un jour où il faudra revivre ensemble. C'est des questions qui se posent sans arrêt, en fait. Donc, on peut aussi, quand on entend les nouvelles, les actualités, l'Ukraine, c'est ça, aujourd'hui, avec les Russes. Hein. Donc, on peut penser à ces phénomènes de justice transitionnelle. Et comme ces situations sont déjà connues, malheureusement, ça, l'histoire se répète, eh ben, quelqu'un comme Antoine Garapon a pensé cela. Voilà. Donc, quand il vient avec nous, pour nous, avec un bagage de justice restaurative, eh bien, il est fort aussi de toute l'expérience qu'il a acquise sur le terrain dans ces cas très limites. Alors, une autre citation. dans certaines situations extrêmes, dit-il, le procès pénal ne suffit pas. Il faut ouvrir un espace éthique pour accueillir la souffrance. Alors, vous avez peut-être entendu parler des commissions vérité et réconciliation qui ont été mises en place justement, qui sont nées quand même souvent au sein des communautés chrétiennes. Et donc, ceux que ça intéresserait, il y a énormément de documents là-dessus. C'est des commissions avec une méthodologie de travail très précise qui se mettent en place, par exemple, au Rwanda, en Afrique du Sud, en Colombie aussi, et qui essayent justement de retisser, restaurer le lien social. Le procès pénal ne suffit pas. Il est indispensable, mais il ne suffit pas. Et ce n'est pas simplement parce que Hitler est mort et qu'on a pu retrouver certains criminels nazis et les juger qu'on a restauré la confiance entre Français et Allemands, et même l'ensemble des pays touchés par la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu des hommes et des femmes qui s'engagent dans la restauration des liens jusqu'à bâtir, vous le savez, pour l'Union européenne, une communauté économique pour mettre des intérêts en commun et justement essayer de dépasser, on l'espère définitivement, les antagonismes. Donc, troisième moment, on va essayer de... Enfin, c'est le deuxième moment, ça peut être encore dans la deuxième partie où on bascule dans la troisième, vous ferez comme vous voudrez, c'est pas très grave. Je voudrais simplement balayer avec vous les quatre piliers de la justice restaurative. Alors, on peut aller un petit peu plus vite parce que là, je crois que vous commencez à bien comprendre. Le premier pilier, c'est la vérité des faits, et ça, c'est le point de départ indispensable. Parler de justice restaurative, ça ne veut pas dire on balaye la vérité des faits parce que les faits sont insuffisants à établir un chemin de restauration. Certes, mais la base, c'est la vérité des faits. Ça veut dire aussi que quand quelqu'un est confronté à une injustice, la vérité qui nous libérera, c'est la vérité factuelle. On essaye d'établir les faits objectivement. Parce que si la justice aurait bon dos, qu'on dise, bon, bah, au nom d'une restauration du lien, on va être un petit peu ambigu, flou, voire faire carrément des omissions sur ce qui s'est vraiment passé. Que s'est-il passé? La vérité des faits. Mais cette vérité-là, qu'on appelle parfois dans le jargon, s'il y a des juristes parmi nous, des praticiens du droit, la vérité judiciaire, hein, qui n'est jamais vraiment la vérité vraie, bah, cette vérité judiciaire, nous estimons qu'elle doit aussi faire part au vécu des victimes, c'est ce qu'on vient de dire, des auteurs et de la communauté. Et donc, pour l'établir, il faut une forme de dialogue, d'écoute mutuelle, ces espaces où on s'écoute, où la parole circule. En faisant entendre le récit de tous les protagonistes, à commencer la victime. Et moi, je suis confrontée assez souvent, par exemple, à des jeunes femmes, mais ça pourrait être aussi des jeunes hommes, qui, quand elles vont porter plainte dans certains lieux, ne sont pas entendues. Et donc, toute une procédure va se dérouler sur base d'un minuscule témoignage où la victime n'a vraiment pas eu l'impression d'être entendue. Alors, ce n'est pas partout comme ça. Il y a des lieux, au contraire, qui se développent de plus en plus et d'excellents officiers de gendarmerie ou de police qui recueillent avec beaucoup de soin et d'attention le témoignage des victimes, mais d'empêche que là, on se dit, il faut qu'on s'écoute et il faut d'abord écouter les victimes. Ensuite, le deuxième pilier de la justice restaurative, c'est l'engagement des personnes. La justice restaurative, elle suppose une implication volontaire de chacun. Des victimes, bien évidemment, c'est le cœur, des auteurs des faits et de la communauté qui les entoure. Si cette implication volontaire vient à manquer, c'est même pas la peine d'aller plus loin, ce n'est pas possible de déployer une justice restaurative. Quand un auteur de faits dit « moi, je me reconnais pas là-dedans et j'ai pas fait ça bon, », c'est mort, quoi, hein, faut se le dire. Et il y a parfois certaines personnes qui n'arriveront jamais à admettre ce qu'elles ont fait tellement elles ont une autre image d'elles-mêmes. Troisième pilier de la justice restaurative, c'est la restauration des liens. pas simplement réparer au sens classique, hein, le droit pénal prévoit des réparations financières, notamment, hein, réparation du préjudice subi, il y a différents types de préjudices, il y a des barèmes, selon qu'on vous a tué ou simplement mis un coup de poing avec une arme, bon, il y a des barèmes. Mais là, il ne s'agit pas simplement de ça, mais de reconstruire, vous l'avez bien compris, une forme de relation. Et même une forme de relation symbolique. Je vais vous donner un exemple pour bien le matérialiser. Il y a des victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique. L'auteur des faits, il est mort. Il est mort depuis longtemps. Les gens ont plus de 70 ans et l'auteur, il en aurait 110. Eh bien, le fait d'aller voir, par exemple, le responsable de la communauté actuelle et d'avoir une discussion avec lui contribue, ça ne fait pas tout, hein, mais ça peut contribuer à ouvrir un chemin de restauration. Alors, ce n'est pas facile non plus pour le responsable de la communauté qui, des fois, est plus jeune que la victime et qui pourrait être l'arrière-petit-fils de l'auteur des faits. Hein. Enfin, il faut se rendre compte. Mais c'est là qu'on voit que c'est symbolique. C'est parce que l'actuel responsable incarne l'institution, que l'institution n'a peut-être pas protégé au moment où il aurait fallu. Et donc, en assumant ce dialogue, cette rencontre, cet homme-là, voilà, il contribue à faire passer un peu de vie là où la vie passait plus. Et vous avez des victimes de plus de 70 ans. Alors je dis ça parce que c'est pour montrer qu'on peut être complètement à terre pendant 70 ans, qui retrouvent un petit peu de vitalité et d'espérance à partir de ce chemin-là, alors qu'avant, ils étaient en mode survie, voilà, dans le meilleur des cas. Quatrième pilier de la justice restaurative, c'est la dimension communautaire, et ça c'est celle qui est peut-être la moins perçue pour le moment, sur laquelle je pense que nous devons beaucoup travailler. Dans la justice classique, bien évidemment, il y a une communauté, la société, elle est représentée par le ministère public, il y a des jurés dans les cours d'assises qui représentent la société, il y a des témoins de l'humanité, hein, si on veut dire les choses comme ça, mais d'empêche que la communauté de base dans la quelle s'est inscrit la faute, le crime, le délit, elle n'est pas vraiment représentée. Eh bien là, il s'agit au contraire de retrouver le sens de la responsabilité de la communauté de base pour faire justice restaurative, pour faire une justice qui restaure. Et alors là, il y a des méthodes, en fait. Hein. Vous avez peut-être vu le film sur la justice restaurative. Alors, est-ce que vous savez le nom du film ? Je verrai toujours ton visage, voilà. Et puis il y a aussi, je vous le signale, des podcasts sur le site de La Croix en 2024 qui donnent la parole à des victimes et des agresseurs. Et il y a une journaliste qui a souhaité filmer les rencontres parce que c'est justement là que la dimension communautaire intervient. Il y a des méthodes, des techniques, le mot est pas bien, pas très, les mots sont pas très appropriés, mais d'empêche qu'on s'improvise pas là, hein. La communauté, ça s'improvise pas, mais il y a une espèce de méthodologie qui se déroule et je vais vous en donner une si ça vous intéresse. Dans les rencontres victime-auteur, ce n'est l'auteur d'un crime, par exemple, ne rencontre pas sa victime, il va rencontrer une victime qui a vécu quelque chose d'un peu analogue. Et on va faire des rencontres sur base du volontariat ou autour du cercle. Hein, ça s'inspire beaucoup des méthodes de justice telles qu'elles sont rendues, telles qu'elles sont rendues dans des peuples autochtones. Hein, il y a des références à ça, à des peuples africains, etc. Eh bien, dans ce cercle, il y a toujours une ou deux personnes témoins de la communauté humaine qui se taisent, qui sont là pour rendre compte de la présence de la communauté humaine. Comme pour dire, vous êtes déjà, par ce cercle, réintégré dans la communauté humaine. C'est pas rien. Et alors moi, je me disais, je suis membre fondateur d'une association qui s'appelle Justice Autrement, qui a été créée après la SIAZ, justement, pour mettre en place, proposer des chemins de justice restaurative à des auteurs d'abus dans l'Église catholique et donc aussi à des victimes. Et quand on nous expliquait la méthodologie, je me disais, bah, le rôle de témoin silencieux, c'est loin d'être évident. Hein. Vous allez passer une après-midi, alors c'est plusieurs séances, juste pour être assis sur une chaise Quand vous avez, vous l'avez sans doute tous un peu comme moi, le sens de l'efficacité, de ne pas perdre trop de temps, c'est un peu lourd, quoi. Voilà. Mais ça montre qu'au contraire, symboliquement, la présence de la communauté humaine est très importante, est essentielle, et pas simplement une représentation un peu différée comme au procès, où là, il y a quand même quelque chose un peu théâtral, et vous savez bien que les juges qui sont là ne sont pas si proches que ça de vous. Hein. C'est leur métier, c'est leur fonction, ils rendent la justice. Là, c'est des pauvres bougres comme vous et moi, qui sont assis sur une chaise et qui viennent témoigner de l'humanité, qui attend la restauration aussi. Et pourquoi ? Parce que la communauté, elle a été blessée par les faits. Malheureusement, il y a des victimes par ricochet, comme on dit. Hein. Il y a des victimes indirectes des faits. On le sait bien pour la question des abus dans l'Église catholique, nous sommes tous un peu victimes de ce qui se passe. Bien entendu, il y a des victimes directes pour qui la vie se brise, mais d'empêche que la communauté, elle porte lourd derrière, hein, pour essayer de refaire du lien, de recréer une confiance, une dignité. Voilà, alors si ça vous intéresse, Thérèse de Villette, qui est la fondatrice de l'association Justice Autrement, c'est une sœur Xavière, une religieuse Xavière, qui a, je sais pas, 80, peut-être 2 ans maintenant, et qui s'est convertie en quelque sorte à la justice restaurative parce qu'elle était envoyée en mission en Afrique. Et une de ses jeunes sœurs médecins qu'elle avait fait venir pour s'occuper des malades du sida a été assassinée dans la communauté par un ancien détenu dont Thérèse s'occupait. Et donc pour elle, catastrophe, elle s'effondre parce qu'elle se sent infiniment coupable de ce qui vient de se passer. Elle part au Canada, ce témoignage est public, hein, je dis rien de secret. Elle part au Canada et là, elle se forme. Alors, il y a tout un cheminement. Elle se forme à la justice restaurative pour justement essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut continuer à vivre et continuer à vivre ensemble. C'est ça le but après un tel drame. Et elle a consacré sa vie à ça. Et elle a dit, la justice restaurative fut pour moi une voie de guérison. Et donc, ce qui n'est pas banal, c'est qu'ici, la justice restaurative, elle restaure pas seulement ceux qui sont directement victimes. Disons qu'elle peut guérir certaines victimes ou contribuer à la guérison. Elle peut contribuer au rétablissement des auteurs et limiter les récidives, clairement. Mais aussi, elle impacte tout le tissu social et donc tous ceux qui sont impactés par ce drame. Alors elle dit aussi, il ne s'agit pas de tourner la page, alors là c'est une autre citation, je vous la dis juste comme ça, elle n'est pas là, il ne s'agit pas de tourner la page, mais de lire ensemble ce qui s'y est inscrit. Ne pas tourner la page, mais lire ensemble ce qui s'y est inscrit. Et quand on est soi-même victime de certaines choses, eh ben, tourner la page, ce n'est pas possible, hein. Et vous voyez, quand vous allez dans les camps de concentration, c'est ne jamais oublier, quoi, hein, le mot d'ordre. Plus jamais, ne jamais oublier. Donc la justice restaurative, ce n'est pas l'oubli, mais c'est de lire ensemble ce qui s'y est inscrit. Alors ceux qui seraient intéressés pour prolonger cela, vous pouvez aussi lire tout ce que Desmond Tutu a écrit au moment où il œuvrait en Afrique du Sud pour la vérité et la réconciliation, mais ça commence par la vérité. Il dit « Le pardon ne veut pas dire oublier, cela veut dire regarder le mal en face et décider de ne pas y répondre par le mal. » En d'autres termes, la peine de mort ne suffit pas à restaurer la vie. Ça soulage sans doute ceux qui... Mais encore que. Voilà, pour terminer, je vous propose quelques récits bibliques que vous connaissez bien, mais qui sont dans cette dynamique d'une vérité qui libère, d'une vérité qui restaure. Alors, en vous proposant ces textes, je vous propose de bien avoir en tête ce qu'on vient de se dire, parce que c'est des textes qu'on connaît par cœur, mais il y a aussi d'autres... manière de les entendre à la lumière de cette problématique. Le premier récit, c'est Joseph et ses frères. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Ses frères sont jaloux de lui. Bon, je résume un peu, l'histoire est très longue. Ils l'ont vendu, ils l'ont oublié. Joseph, de son côté, un peu par miracle, est devenu un homme fort, qui est gouverneur en Égypte. Et il se trouve que ses frères, la situation se renverse. Ils sont, eux, dans le besoin, et donc ils viennent mendier du blé, sans savoir que l'homme qui est devant eux, c'est Joseph, le petit frère qu'ils avaient essayé de trucider quelques années avant. Alors Joseph les observe et il les entend dire, citation, « Oui, nous sommes coupables envers notre frère, nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. » Et cet aveu des frères, cet aveu de ses frères suffit pour Joseph pour qu'il décide de ne pas se venger, mais il pleure. Joseph pleure, c'est ça sa réaction. Et il leur dit simplement la vérité. « Je suis Joseph, votre frère. » Et il ajoute « Ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. » Ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Alors pourquoi j'ai pris ce récit? C'est parce que ce récit, il est issu de la Genèse, hein, c'est entre 40 et 50, vous pourrez aller relire, c'est très très long l'histoire. On en avait déjà parlé à un moment donné ici pour parler de la résilience. Mais là, ça me paraît clairement une justice qui restaure. Deuxième récit, Zachée. Alors on est là dans l'Évangile, vous connaissez bien Zachée, il est mal vu. Il est riche, il est tout petit, et il est collecteur d'impôts pour l'occupant. Alors autant vous dire qu'il n'est pas très apprécié. Et un jour, Jésus est censé passer près de chez lui. Il monte dans un arbre pour essayer de voir Jésus. Et Jésus l'interpelle et lui dit « Descends, Zachée, aujourd'hui, je viens chez toi. » Et Zachée répond, c'est là qu'il y a un peu un élan, une voix restaurative. Zachée répond « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je rends le quadruple. » Jésus ne lui a rien demandé. Hein. Il va beaucoup plus loin, et parce qu'il a été regardé autrement, il choisit la justice, et une justice qui restaure. Troisième récit, le fils prodigue, tout est dans le titre, on connaît aussi beaucoup cette parabole. Le fils cadet est parti, il a quitté la maison de son père en prenant son héritage, il le dilapide, il gaspille tout. Et puis quand il se retrouve dans le besoin, eh ben, il revient chez papa, très penaud, et en se disant qu'il sera plutôt son serviteur. Bref, comme on dit aujourd'hui, il ne la ramène pas trop, quoi. Mais là, le père, sans aucune étape intermédiaire, court dès qu'il le voit. Dès qu'il entend « Père, j'ai péché contre toi », le père court, se précipite, l'embrasse et le restaure. Au sens strict, il lui offre un banquet. « Mon fils était mort, il est revenu à la vie. » C'est la seule parole qui nous reste de cet épisode, mais ça veut dire que dans une phrase lapidaire, le lien ici est plus important que la faute. Alors on lit souvent cette parabole pour les cérémonies pénitentielles. Là, je crois qu'il faut l'entendre pas uniquement dans l'idée du pardon, ça c'est des notions dont nous sommes plus familiers, mais vraiment de la restauration. Hein, n'oubliez pas, il va lui offrir un banquet pour lui redonner vie au sens strict, quoi. Il lui donne à manger. Voilà. Et c'est bien toute la fonction paternelle, donner à manger. Alors, je crois qu'on approche de notre conclusion. C'est bon? Combien de temps, à peu près? Bon, ça va. Juste récapituler le chemin qu'on a parcouru. Se rappeler que la justice restaurative ne nie pas la faute. Elle suppose un aveu. Elle suppose la vérité des faits. La justice restaurative, elle nomme les choses. Elle porte les choses et elle invite à dépasser les choses. Comment ? Pas en disant « Allez, c'est bon, on tourne la page ». Ça, c'est un discours qui est absolument inaudible et qui renforce la souffrance des victimes. Mais qui dit « On va créer un espace où la vérité ne détruit pas, mais elle libère. Et pour créer les espaces, eh ben, on a besoin de chacun d'entre nous. La justice restaurative, elle rappelle que la justice, ce n'est pas simplement une relation entre les juges et les accusés, les mises en cause, comme on dit. Ni même un tête-à-tête assourdissant entre victimes et auteurs. Or, c'est ça qu'elles vivent, les victimes. Hein. C'est d'être prisonnières dans leur tête de cette relation extrêmement malsaine avec l'auteur. Mais au contraire, la justice restaurative, elle ouvre un horizon et elle engage toute la société, toute la communauté humaine, à entrer dans une circulation de la parole, dans une circulation de l'écoute, dans une simple présence, comme je vous ai dit tout à l'heure, aller vous poser sur une chaise pour témoigner de la présence de la communauté humaine, elle ouvre des perspectives. Elle fait éclater tout ce qui serait, vous avez travaillé sur l'emprise en début de session, tout ce qui serait définitivement fermé, en fait. Et en cela, on peut dire que la justice restaurative, elle est un accomplissement de la justice classique. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, sur laquelle j'aimerais qu'on reste en conclusion avant de passer aux ateliers. C'est cette phrase toute simple d'Éphésiens 5. Mettre au jour les œuvres des ténèbres et marcher comme des enfants de lumière. Mettre au jour les œuvres de ténèbres, on dit les choses, on pose les choses, on nomme les choses, on met au jour. Il y a là l'idée vraiment d'une vérité au sens grec d'aletheia, de dévoilement. On dévoile, hein, on sort les vieux secrets, on dénonce les complicités, y compris institutionnelles, on fait la lumière, on met au jour les œuvres des ténèbres. Ça peut être aussi en matière financière, hein, il y a beaucoup de choses là à dire. On fait les comptes, on rend les comptes. Et marcher comme des enfants de lumière. C'est-à-dire que cette vérité qui nous libère, elle nous transforme à notre tour en enfants de lumière. C'est bien le sens profond du baptême, d'être chrétien. Et on marche, on avance. La vie n'est plus figée, quoi. Et donc, le jugement, ce n'est pas la fin, hein, qui clôture. Non, là, dans la justice restaurative, c'est une vérité qui libère, qui met en marche. Il y a un avenir possible. Il y a encore des choses à vivre. Et l'avenir est plein d'espérance. Plein de promesses.